Soyez les bienvenus sur Inter. Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, plus une seule cigarette pendant la grossesse. Si les médecins en permettaient quelques-unes, jusque-là, eh bien c'est terminé maintenant. Explication dans un instant, en ce premier jour du mois sans tabac. Être femme en Corée du Nord, à l'heure de MeToo, la terrifiante enquête de Human Rights Watch sur les viols et les abus sexuels dans ce pays le plus fermé au monde, des réfugiés racontent. Les secrets du cerveau dans 20 minutes, Nicolas, on branche les électrodes avec votre invité.
Un gros cerveau, le neurologue Lionel Nakache, invité du grand entretien de la matinale à l'occasion du cycle de conférences sur la mémoire qu'organise France Inter à partir de la semaine prochaine. Inscrivez-vous d'ailleurs pour assister à cet ensemble de conférences et vos questions à Lionel Nakache au 01 45 24 7000.
À la une également peut-être un accord sur la City entre Londres et Bruxelles, mais toujours pas d'accord global sur le Brexit. La mémoire et la mort, témoignage d'un homme qui fait paraître chaque mois une annonce dans Le Monde pour son compagnon défunt. Le Var et des inondations redoutées ce matin. Et puis des monstres de 30 mètres au ponton de Saint-Malo. C'est la route du Rhum, départ dimanche.
France Inter.
On écrase sa cigarette et on repousse le cendrier. Le mois sans tabac commence aujourd'hui pour la troisième année. Challenge collectif pour arrêter de fumer. Plus de 200 000 personnes sont déjà inscrites. Et parmi elles, combien de femmes? C'est sur elles que l'accent est mis. Cette année, presque une femme sur cinq est fumeuse. Et elles ne s'arrêtent pas toujours quand elles sont enceintes. Or, le message est clair. Désormais, comme pour l'alcool, Véronique Julia, il faut complètement arrêter de fumer pendant la grossesse.
En 2016, dernier chiffre dont on dispose, la moitié quasiment des femmes enceintes qui fumaient avant la grossesse sont arrêtées avant le troisième trimestre. Les autres n'ont pas réussi, mais la plupart a quand même réduit sa consommation en se disant que finalement 5 cigarettes quotidiennes font moins de mal que 10. Erreur, souligne la tabacologue Anne Born.
Ce message est faux puisqu'on sait qu'elles vont compenser en tirant plus fort sur leurs cigarettes et que l'intoxication avec les produits de combustion de la fumée du tabac ne sera pas diminuée par le fait de diminuer le nombre de cigarettes.
La recommandation, c'est donc zéro cigarette. Et pour cette fausse croyance qui a longtemps consisté à dire qu'il valait mieux éviter le stress d'un sevrage en poursuivant une consommation modérée. Les femmes doivent, si besoin, se faire aider. Substitut nicotinique, vapotage, rien n'est contre-indiqué pendant la grossesse, précise la tabacologue, qui relève aussi qu'au fil des ans, l'accompagnement des femmes enceintes vis-à-vis du tabac s'est beaucoup amélioré. Des consultations spécifiques sont ouvertes, le message est clairement affiché dans les maternités. Et depuis le début de l'année, les substituts sont remboursés intégralement. Ils peuvent être prescrits aussi par beaucoup plus de professionnels.
Ça a donc été étendu aux infirmières, aux dentistes, aux kinés. Les sages-femmes avaient déjà le droit de prescrire des substituts nicotiniques, mais ça a été étendu à l'entourage de la femme enceinte.
En 2016, 80% des femmes enceintes disaient avoir été interrogées par leur médecin sur leur consommation de tabac et 49% disaient avoir reçu des conseils pour arrêter.
Moi, sans tabac, vous avez arrêté? Comment ça va? Venez nous le dire. Au téléphone sonne ce soir sur Inter.
Il est 8h03. À quoi ressemble la vie des femmes, Florence, dans l'une des pires dictatures au monde?
L'écho terrifiant ce matin du sort des femmes en Corée du Nord. Selon Human Rights Watch, qui publie une enquête aujourd'hui, les viols et les abus sexuels y sont monnaie courante. Les femmes, là-bas, sont des proies. Frédéric Ojardias, à la merci des représentants de l'État.
Ces prédateurs sexuels peuvent être des officiels du parti, des gardiens de prison, des policiers ou des procureurs, affirme Human Rights Watch. Voici les témoignages de deux réfugiés, dont celui d'une ancienne détenue recueillie par l'association.
Quand l'officier m'a violée, il a juste enlevé son pantalon sans dire un seul mot. Je n'avais aucun endroit où fuir. J'ai pensé, que va-t-il m'arriver si je refuse? Alors j'ai cédé. J'ai été libérée le lendemain. C'est l'homme qui m'a violée qui a rempli les documents nécessaires pour ma libération. J'ai pensé que pour pouvoir sortir de prison et prendre soin de mon enfant, il fallait donner mon corps.
Quand les officiers de police patrouillent, s'ils voient une jolie femme, ils essaient de trouver un problème. Même si la femme a ses papiers d'identité, son permis de voyage et tous les documents nécessaires, ils disent « Oh ça ne va pas ». Donner son corps à un policier est si courant. Il n'y a rien que vous puissiez faire.
L'ONG demande aux interlocuteurs de la Corée du Nord d'aborder le sujet, mais Corée du Sud et États-Unis, absorbés par les négociations nucléaires, évitent de parler des droits de l'homme, de peur de froisser Pyongyang. Séoul, Frédéric Ojardias, RFI pour France Inter.
Les surenchères de Donald Trump avant les élections de mi-mandat mardi, l'Américain parle maintenant d'envoyer 15 000 militaires à la frontière mexicaine pour empêcher les migrants de passer, 15 000 soldats, autant que le contingent déployé en Afghanistan.
Il est 8h05. Est-ce un premier pas vers un accord global sur le Brexit ou un des nombreux ballons d'essai du gouvernement britannique?
Selon le Times, Theresa May a trouvé un accord avec Bruxelles sur la City de Londres. Accord très attendu par la première place financière européenne. Bonjour Antoine Gignot, correspondant de France Inter à Londres. Antoine, le secteur financier britannique conserverait l'accès au marché unique?
Absolument. Ce que promet le gouvernement britannique, c'est un accord de libre-échange comme celui qu'a signé le Canada avec l'Union européenne. Nous avons négocié, explique le ministre du Brexit, un chapitre spécifique sur les services financiers pour permettre aux banques de continuer à vendre leurs produits, leurs prêts, leurs opérations de clearing dans tous les pays de l'Union tant que la réglementation reste la même des deux côtés de la Manche. En réalité, cette annonce ne change pas fondamentalement la donne. Les principales institutions financières ont déjà ouvert ces derniers mois des filiales un peu partout en Europe pour garder l'accès au marché européen. Mais en communiquant sur le sujet, le gouvernement tente de faire oublier qu'il reste d'énormes obstacles à surmonter. La question de l'accès des entreprises commerciales britanniques au marché unique n'est pas totalement résolue. Il n'y a toujours aucun accord sur la frontière irlandaise. Et même ce maintien temporaire du Royaume-Uni dans l'union douanière promis par Theresa May et qui permettrait justement de continuer à exporter les services financiers, eh bien cet accord est loin de faire l'unanimité au sein de la majorité.
Antoine Gignot en direct de Londres, toujours en Europe, une Europe en plein climat d'entre-deux-guerres pour Emmanuel Macron à Ouest-France. Le président a dit être frappé par la ressemblance entre la situation actuelle et celle des années 30. Il appelle à être lucide et à résister 3 jours avant de partir pour une longue tournée commémorative 100 ans après la fin de la Grande Guerre. Quand l'Église lève le voile sur la pédophilie, cette fois c'est le diocèse de Vendée qui annonce qu'il enquête sur des faits qui ont eu lieu dans les années 50 jusqu'à la fin des années 70 dans 2 établissements catholiques. Une 15aine de prêtres sont mis en cause par des témoignages, mais seulement 2 signalements ont été faits au procureur de la République ces dernières années. Et les poursuites ont été abandonnées pour cause de prescription des faits. Comment faire vivre la mémoire des morts en ce jour de Toussaint? Béatrice Duguay a rencontré un homme qui, depuis 22 ans, fait publier tous les mois un message dans les carnets du journal Le Monde, un message pour son compagnon disparu.
La date de publication ne varie guère, autour du 14 du mois, parce que Jean-Jacques Baudouin-Gauthier a perdu son compagnon Jean-Louis Frasca le 14 septembre 1996.
Dans l'existence, vous rencontrez rarement des gens qui vous impressionnent, qui vous donnent envie de les suivre. Lui était brillantissime, il était médecin, il est sorti de major d'HEC. Il s'intéressait à tout. Mais c'est vrai que du jour au lendemain, le fait de ne plus avoir ce soutien, c'est pas seulement perturbant, ça vous anéantit complètement.
Jean-Louis Frasca a été renversé par un chauffard ivre qui a pris la fuite. La vie de Jean-Jacques Baudouin-Gauthier a donc chaviré non seulement parce qu'il a perdu celui qu'il aimait, mais aussi parce que la famille de ce dernier l'a chassé de chez lui. L'annonce dans le carnet du Monde a servi de thérapie.
Au départ, ça a été une réaction à l'endroit des parents et puis aussi le fait de le maintenir en vie. C'était la seule façon pour moi de dire mon désespoir et puis aussi de dire à ceux qui le connaissaient qu'il était mort.
Aujourd'hui, la béquille psychologique de cet homme parle à bien des endeuillés, finalement.
Il y a des gens aujourd'hui qui m'écrivent en disant « ça fait 3 ans que j'essaye de vous écrire, mais j'ose pas, et j'ai perdu un enfant, j'ai perdu un être cher, et je sais pas comment. » Et pour moi, c'est vrai que cette régularité des annonces, ça reste quelque chose d'important et aussi une raison d'être, et de rester.
Pour la date anniversaire de décès, toujours le même poème de Winston Oden.
Celui qui a illustré le film « 4 mariages et un enterrement ».
Il était mon nord, mon sud, mon est et mon ouest.
Mon est, mon ouest.
Ma semaine de travail,
dimanche de sieste. Mon dimanche de repos.
Beaucoup moins poétique, les débordements de la soirée d'Halloween hier. Des incidents ont eu lieu à Lyon, Metz, Rennes ou en région parisienne. Bris de vitrines, feux de poubelles à Étampes. Des policiers ont été visés par des tirs de mortier à Montgeron dans l'Essonne. Une policière a été blessée par un jet d'acide.
Aujourd'hui, 1er novembre, Florence, c'est aussi le moment de se lamenter sur sa facture de gaz.
Plus 6% ou presque en tout depuis le mois de janvier. La hausse est de 24%. Voilà qui alimentera sans doute la grogne sur le pouvoir d'acide. d'achat. Une mobilisation, vous le savez, est prévue le 17 novembre contre la hausse des prix du carburant à l'appel d'automobilistes lambda, a priori. Mais elle est soutenue, cette mobilisation, par Debout la France et le Rassemblement National. Pas forcément par les Républicains. Élodie Forêt, sur ce coup-là, ils sont plutôt prudents.
Ils ne s'afficheront pas écharpe tricolore en bandoulière lors des blocages. Pour une majorité de députés LR, si la cause est bonne, en revanche, le procédé ne peut être approuvé par des responsables politiques.
Violer la loi, empêcher la liberté d'aller et venir, n'est pas une réponse.
Julien Aubert, député du Vaucluse.
Le débat doit rester cantonné au débat démocratique et je regrette que finalement la psychorigidité du gouvernement l'empêche d'écouter le message de la rue, parce qu'effectivement ça fait le miel de tous ceux qui sont un peu démagogiques et de ces partis qui en réalité soufflent sur les braises.
Pas de récupération donc, mais un soutien. Nous sommes les porte-voix de cette colère, dit Julien Aubert. Même avis pour la députée du Doubs, Annie Genevard.
Le rôle d'un responsable politique, c'est de comprendre la révolte citoyenne, de l'accompagner en interpellant le gouvernement, en faisant des contre-propositions. Nous avons fait la proposition de créer un ticket carburant et puis surtout de sortir de cette approche d'une écologie punitive.
Des propositions plutôt qu'une récupération, en espérant, soupire un autre député, que les Français respectent davantage une opposition qui propose, plutôt qu'une opposition qui montre les dents et bloque les routes.
Et au chapitre des changements du 1er novembre, on retiendra aussi la revalorisation de l'allocation adulte handicapé qui passe de 819 à 860 euros par mois.
8h11, le Var, toujours en alerte inondation.
Le pic de la crue de l'Argent s'est attendu en milieu de matinée. 600 personnes ont été évacuées dans le Var et la commune de Roquebrune sur Argent s'attend à une nouvelle inondation, comme en 2010, comme en 2011, comme en 2014 et en 2016. Ce qui amène Paul, roquebrunois depuis plusieurs générations, à se demander pourquoi des gens sont toujours installés aux abords de la rivière.
Alors ceux qui habitent un peu dans la plaine, dans les bas-fonds, oui, c'est dramatique pour eux, mais bon, ils le savent, ils habitent là, dans la plaine, il y a l'argent qui passe. Ils sont au même niveau que la rivière, dès que la rivière le verse un peu, ils sont trempés, hein, ils y ont droit. Hein. Et on a l'habitude, hein. On n'est pas étonné quand on voit les gens qui construisent des maisons dans la plaine ou dans des bas-fonds, on dit, mais ils sont fous. Quand on leur dit, ils passent 2 mètres d'eau, ils ne croyaient pas, ils rigolent. Voilà, les vieux, ils faisaient des cabanons en hauteur dans la plaine, c'est pas pour rien. Il y avait toujours un petit étage. Et eux, non, ils font des rez-de-chaussée, après ils sont étonnés qu'ils ont 1 mètre d'eau ou 2 mètres d'eau. C'est ça le problème. Même si vous faites une villa dans la plaine, faites un étage. Mais vous êtes à l'abri, il peut y avoir 2 mètres d'eau, personne s'inquiète de vous là. Donc il faut faire attention à certaines règles avec l'eau.
Voilà les mots de Paul, le vieux sage de Roquebrune sur Argent, au micro de Sophie Glotin de France Bleu Provence. Plus de postes, plus de sécu, plus d'hôpital, c'est ça la vie sans service public. Réalité sur laquelle travaille le gouvernement. Il annoncera des mesures en fin d'année pour des communes, pas toujours en milieu rural, à Viry-Châtillon par exemple, en banlieue parisienne. 31 000 habitants, le maire a lancé une pétition contre la fermeture des services publics, Élodie Forêt.
Dans le quartier populaire du Plateau, le bureau de poste est en sursis depuis de nombreux mois. Les horaires sont déjà réduits. On ne veut pas fermer, on veut transformer, explique la direction de la poste. Transférer les services chez un commerçant du secteur, par exemple, les habitués sont sceptiques.
Le commerçant ne nous offrira pas tous les services que pour le moment nous offre ce bureau, c'est-à-dire retrait d'argent, virement, envoi de mandat.
C'est un service pour tout le monde. Il faut penser aux personnes âgées qui n'ont pas de moyens de transport. Ça, prendre les bus, ça c'est pas évident. Réduire tous les services publics comme ça, à un moment donné, c'est plus possible.
La caisse primaire d'assurance maladie a déjà fermé il y a 2 ans. Pour porter plainte aussi, il faut aller dans une commune voisine. Et au 1er janvier, ce sera également le cas pour une question sur sa feuille d'impôt. Le centre de finances publiques ferme. Une décision brutale, s'insurge le maire centriste de Viry-Châtillon, Jean-Marie Villain.
J'ai reçu dans un premier temps, au mois de juin, un responsable des finances publiques qui est venu m'annoncer que peut-être il pourrait imaginer que le trésor public puisse fermer. Dans la réalité, 4 mois après, j'ai reçu le courrier définitif. C'est encore une fois rationaliser toujours le personnel, faire des économies en matière de location. Enfin, il y a toujours de très bonnes raisons.
Mais aucune ne tient compte de la réalité du terrain, des besoins des habitants, poursuit le maire, qui a demandé un rendez-vous à Bercy. Nos ministres ont été élus locaux, ils devraient comprendre, veut croire Jean-Marie Villain.
Et c'est Delphine Evenou, évidemment, qui est de retour de Viry-Châtillon, Nicolas Demorand. Canal+, remet la main sur le championnat de foot anglais. Le groupe a remporté l'appel d'offres sur la diffusion de la première ligue. Olympiques pour les trois prochaines saisons. Il prend sa revanche sur RMC Sport qui lui avait raflé en 2015. Rendez-vous au ponton de Saint-Malo maintenant devant les nouveaux monstres des mers. Nicolas, on y trouve en ce moment tous les passionnés de voile avant le départ dimanche des 123 bateaux de la route du Rhum. Les organisateurs attendent d'ici là 2 millions de visiteurs fascinés par les ultimes, les trimarans géants qui devraient battre encore une fois tous les records de la traversée, Jérôme Val.
C'est chouette à venir voir.
Aller voir les ultimes, ça se mérite. Ils sont amarrés un peu à l'écart, leurs ailes de géant ne leur permettent pas d'être proches des quais comme tous les autres bateaux, mais le détour vaut le coup d'œil.
On dirait une remonta sur le dessus, j'aime bien, vraiment.
Florence est venue en famille depuis Paris.
Oh, c'est impressionnant, très impressionnant.
Déjà, ils sont très beaux, très grands. Tu demandais à maman si on pouvait y aller en bateau, elle a dit que les gens connus.
Impossible d'approcher ces bêtes de course. Alors Patrick a sorti les jumelles.
Ça nous intéresse, d'autant plus que le skipper est de chez nous, de la région de Morlaix, donc on est venu un petit peu le saluer, mais dommage qu'on puisse pas l'approcher un peu plus.
Mais même de loin, ces engins qui pourraient traverser l'Atlantique en moins de 6 jours restent démesurés. Yvonique se sent tout petit.
C'est vrai que c'est impressionnant de se dire qu'une seule personne peut manipuler un si gros engin, c'est vraiment impressionnant.
32 mètres de long, 23 de large pour les derniers nés de ces maxi trimarans. De quoi impressionner, même donner envie, Nathan a 15 ans.
Les trimarans ultimes, c'est vrai que ça me passionne vachement. Ouais. Je me vois bien en faire mon métier, et puis je trouve que c'est incroyable de faire des tours du monde sur des bateaux de 30 mètres de long. Quoi. Ce serait mon rêve, mais après, c'est pas si simple que ça. Quoi. Il n'y en a pas beaucoup sur Terre.
Et ils seront 6 ultimes au départ de cette route du Rhum. Saint-Malo, Jérôme Val, France Inter.
Les Français complètement out à Bercy. Défaite de Gilles Simon, Richard Gasquet, Adrian Manarino hier. Il n'y a donc plus aucun Français en 8e de finale. Djokovic et Federer à suivre sur les cours de Bercy aujourd'hui. Enfin, voilà un homme qui se verrait bien à l'Académie française.
Nous fîmes un grand tour dans les rues proches de l'hôpital. Un après-midi à marcher en traînant. Ça a l'air de rien, mais à marcher en traînant. C'est sublime. Pourquoi ? Bah parce qu'il y a des oppositions, c'est le début d'une nouvelle langue.
Bah oui, c'est sublime. Vous l'avez reconnu, évidemment.
Lucchini.
Fabrice Lucchini. Il veut tenter de se faire élire à l'Académie française. Il le dit au Figaro magazine cette semaine. Il explique que Jean d'Ormesson, en son temps, et Valérie Giscard d'Estaing l'ont encouragé.
Merci Florence Paracuelos.